Une émission en mixité trans, PD, Gwyn, meuf et féministe.
Les hérissons sont dans le poste.
Ça va piquer à l'heure du dîner.
Ça va gratter. On parle de l'actu.
On fait des reportages.
On dit nos coups de cœur.
On s'amuse.
On met de la musique.
On parle de lutte.
On prend la parole.
Et on la donne.
Ah, et aussi on fait un agenda.
Typique et seul.
Et est-ce que vous connaissez l'histoire de Paf le hérisson ? C'est un hérisson qui traverse la route et paf, le pneu.
Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans la revanche des hérissons. Alors ce mois-ci, on a voulu faire une émission en lien avec la thématique du travail. Donc ce soir dans l'émission, on aura une rubrique actu avec une chronique qui nous fera un petit résumé de ce que Macron et son nouveau gouvernement veulent mettre en place sur le travail. En gros, qu'est-ce que ça va changer pour les années à venir ? Ensuite, on aura un gros dossier avec des interviews de personnes qui ont fait le choix de ne pas travailler et qui vont nous expliquer un peu ce que ça implique pour elles. Et puis, on fera un focus sur la lutte des travailleuses de l'usine Chantelle près de Nantes depuis 1968 jusqu'aux années 2000. Et du coup, il y a eu un web documentaire réalisé sur ces ouvrières en lutte. Donc, on vous en dira un peu plus dans notre rubrique coup de cœur. Et comme d'habitude, on passera de la musique et un peu avant 20h, vous retrouvez notre agenda. Notre agenda avec des super événements pour le mois de juin. Voilà, vous écoutez la revanche des hérissons sur Sun 93 FM à Nantes. On vous souhaite une très bonne émission.
La revanche des hérissons.
L'actu, actu.
Alors aujourd'hui, la chronique actu a pour thème la réforme de la loi travail prévue par Macron. Pour cet été, semble-t-il, parce que c'est toujours mieux quand les gens sont en vacances. Donc, cette loi travail, ça sera autour de grands axes qu'on va développer. Donc, ce sera sur la primauté des accords d'entreprise, le plafonnement des indemnités des prud'hommes, la fusion des institutions représentatives du personnel, la réforme par ordonnance, la suppression des cotisations sociales, et j'ai rajouté un point sur la réforme de Pôle emploi. Donc, ce qu'il y a à savoir... c'est que le droit du travail et plus globalement le droit français s'applique selon un principe de hiérarchie des normes. Du coup, les normes et les lois sont organisées comme une espèce de pyramide où en haut, il y aurait comme la Constitution, ensuite le Code du travail avec les lois et les règlements. En dessous, on aurait les accords de branche et les accords d'entreprise. Du coup, les accords de branche, c'est des accords entre entreprises et salariés d'un même secteur d'activité. Et ça concerne différents domaines comme la modification du temps de travail, les salaires. À la base, c'est seulement si les dispositions sont plus avantageuses que le Code du travail. Donc, par exemple, ce sont les grands mouvements de grève qui ont abouti à des accords de branche sur le repos hebdomadaire ou les congés payés, qui ont ensuite été repris dans le Code du travail. Et en dessous, on a les accords d'entreprise, qui est à peu près la même chose des accords entre chefs d'entreprise et salariés au sein d'une même entreprise. Et du coup, les normes du haut de cette pyramide, elles s'imposent à celles du niveau inférieur. Donc, par exemple, le contrat de travail, il est censé être en accord avec toutes les règles qui sont au-dessus. Avec le respect d'un principe qu'on appelle le principe de faveur. Ça veut dire que quand il y a deux textes qui sont en opposition sur un même domaine, on applique celui qui est le plus favorable aux salariés. Et depuis Sarko jusqu'à la loi El Khomri, les différentes lois sont revenues un peu sur cette hiérarchie en élargissant les domaines d'intervention des accords d'entreprise. Donc aujourd'hui, un accord d'entreprise peut être moins avantageux que le Code du travail et peut être moins avantageux qu'un accord de branche. Et de base, ce sont ces accords qui s'appliquent, et c'est quand l'accord il dit rien qu'on va chercher dans le Code du travail s'il y a des informations intéressantes pour la situation des salariés. Et donc la loi Macron, elle a pour objectif de continuer dans la suite de ces lois-là, concernant donc tous les domaines du Code du travail. Et sur les accords d'entreprise et de branche, jusqu'à maintenant, pour être validé, un accord doit être signé par les syndicats, qui représentent 30% des voix exprimées lors des élections professionnelles. Et s'il n'y avait pas d'accord, les syndicats ils pouvaient demander un référendum parmi les salariés pour trancher sur la question. Et Macron, il veut que quand les syndicats ne sont pas d'accord, c'est uniquement l'employeur qui peut demander à faire un référendum. Donc le deuxième thème, c'est sur le plafonnement des indemnités prud'homales. Donc la réforme concerne pour l'instant ce qu'on appelle les licenciements sans cause réelle et sérieuse. C'est que pour être valide, un licenciement, il doit être forcément fondé sur un motif réel et sérieux. Il doit être prouvé, prouvable, matériellement justifiable et suffisamment grave. Et du coup, quand la Cour des prud'hommes valide un licenciement abusif, les amendes, elles sont plafonnées et les barèmes sont adaptés en fonction de la situation de chaque salarié, quoi, en fonction de son âge, de son ancienneté dans l'entreprise et de la difficulté à retrouver un travail suite à ce licenciement. Donc, par exemple, si tu es une salariée dans une entreprise de plus de 10 salariés avec plus de 2 ans d'ancienneté, potentiellement, tu peux prétendre à au moins 6 mois de salaire. Mais alors, du coup, ça met le MEDEF dans une insécurité un peu folle, parce que vu que ce n'est pas fixe, eh ben, ce n'est pas budgétisable. Et du coup, pour Jean-Jacques de la Compta, c'est un peu l'angoisse. Du coup, on notera que le problème, ce n'est pas vraiment de respecter le cadre légal des licenciements. Hein, c'est pour les amendes que vraiment, c'est trop chiant. Et ce qui est pratique, c'est qu'avec le plafonnement, c'est que ça se fait rarement vers le haut. Hein. Plutôt, on va aller vers le bas, c'est plus pratique. Ajoutez à cela que la justice de classe juge rarement l'école blanche. Hein. On est quand même qu'à 13% de condamnation des employeurs. Donc au final, on a peu de Jean-Jacques en insécurité totale. Mais bon, hein, c'est quand même important de faire ça, selon Macron. Donc après, on a aussi la fusion des institutions représentatives du personnel, qu'on appelle les IRP. Donc, il y en a 3. Tu as les délégués du personnel pour les entreprises de moins de 11 salariés. Pour plus de 11 salariés. Les comités d'entreprise et les conseils d'hygiène, de sécurité et les conditions de travail à partir de 50 salariés. Donc, Macron, il veut créer une seule IRP pour limiter les effets de seuil. Du coup, les effets de seuil, c'est quand tu es une entreprise de 49 salariés, tu n'as pas envie de recruter un autre salarié parce que du coup, tu vas devoir avoir un CE, un CHSCT, t'occuper un peu d'améliorer les conditions de travail et, de tes salariés, proposer des formations professionnelles. Du coup, ils proposent une délégation unique du personnel pour les entreprises de 50 à 300 salariés. Donc pour l'instant, c'est un peu flou. Hein. En dessous de 50, on ne sait pas ce qu'il y a. Est-ce qu'il y aura toujours des IRP ou plus du tout? Et c'est quoi le rôle de ces DUP? On ne sait pas trop. Bon, globalement, les réformes des institutions représentatives des salariés, c'est jamais très bon, quoi. Donc aussi, notre très cher Emmanuel a une proposition fantastique pour pas l'air d'avoir utilisé le 49.3 à outrance, parce que c'est un peu dépassé tout ça, ça faisait des oppositions, puis ça a fait tâche sur le bilan de mandat, après on est rendu à toquer aux portes pour pouvoir être Premier ministre. Donc on a inventé les ordonnances, c'est super, c'est post-49.3 et c'est super moderne, ça permet surtout d'éviter les amendements, les propositions parlementaires, et ça permet que les réformes soient validées telles quelles, donc ni discutées, ni modifiées, soit t'acceptes tout, soit tu refuses tout. Donc le Parlement, il votera une fois pour dire OK pour les ordonnances, et après il se prononcera donc une fois par ordonnance. Donc voilà, le gouvernement pourra prendre toute mesure qui ressort du Code du travail sans passer par le Parlement. Donc on fera un autre point plus précis tout à l'heure, mais c'est quand même drôlement pratique. Ensuite, on a aussi l'avant-dernière proposition, c'est la réduction des cotisations sociales, donc principalement patronales, hein. Macron, il a très envie de promouvoir le SMIC, parce que quand même, hein, on vit hyper bien avec le SMIC. Du coup, la proposition concrète, c'est de supprimer les charges sociales, donc principalement patronales, comme j'ai dit, où on nous fait un petit enrobage pour dire « oui, ça fera augmenter le revenu net, du coup ». Bah non, en fait, si tu supprimes les cotisations, tu supprimes juste les cotisations, puis tu touches ton revenu net comme avant, parce que le revenu brut, c'est le revenu net et tes cotisations. Donc si tu supprimes tes cotisations, il reste la même chose que ce que tu touchais avant, sauf que tu tires plus de ton travail tes cotisations à la Sécu, Pôle emploi ou retraite, et du coup la suppression des cotisations, c'est juste la suppression des cotisations, quoi. Et du coup, vu que tu cotises plus pour la sécurité sociale, il y a moins de ressources, et du coup une autre proposition de Macron, c'est de moins rembourser les frais de santé, et du coup ben, ce que tu cotises pas, ben, tu devras le payer en frais réels puisque tu seras plus remboursé. Et ce qui nous attend aussi, c'est la nationalisation de Pôle emploi. Donc aujourd'hui, Pôle emploi a une relative souplesse d'organisation, donc financière, de recrutement et de gestion un peu de sa politique, quoi, avec une organisation paritaire. Donc l'organisation paritaire, c'est que le CE de Pôle emploi, c'est l'État, les organisations syndicales de salariés, d'employeurs et les collectivités territoriales qui prenaient un peu les grandes orientations, mais c'était Pôle emploi qui met en œuvre. Et la nationalisation, ça veut dire que c'est l'État qui gère, il recrute, il verse les allocs et il décide quel contrôle. Donc le projet, c'est d'augmenter les contrôles et donc les sanctions. Donc son programme, c'est une fois que tu deviens demandeur d'emploi, tu vas avoir un bilan de compétences dans les 15 jours qui suivent ton inscription. Et au niveau de la recherche d'emploi, au bout de 2 refus d'emploi dits décents, ben alors on ne sait pas trop ce qu'ils entendent par décent. Nous, la décence, on a bien une idée de ce que c'est, mais on pense que ce n'est pas vraiment la même échelle, quoi. Donc, au bout de deux refus d'emploi décents, refusé ou que l'intensité de la recherche est insuffisante, eh ben, tu seras plus payé par Pôle emploi. Voilà. Donc voilà, c'était la chronique actu, joyeuse et pleine de promesses. Hein, donc on va écouter La Lega, pour se remettre un peu dedans, un chant de travailleur italien.
C'est ben que siamo donne, paura non abbiamo, per amor de nostri figli, per amor de nostri figli. C'est ben que siamo donne, paura non abbiamo, per amor de nostri figli, in Lega ci mettiamo. C'è l'unione, cromiri col padrone, cromiri col padrone. La libertà non viene perché non c'è l'unione, cromiri col padrone, son tutti da ammazzare. Abbiamo delle belle buone lingue, se benché siamo donne, paura non abbiamo. Abbiamo delle belle buone lingue e ben ci difendiamo. Abbassate la superbia, abbassate la superbia. E voi altri signoroni che ci avete tanto orgoglio, abbassate la superbia e aprite il portafoglio.
Gouverner par ordonnance. Puisque le mot est dans l'air du temps, on s'est dit que c'était pas un luxe de vous proposer une petite définition du sujet, histoire d'être un peu au point sur le discours technique pour les mois qui arrivent. Alors, le plus couramment, lorsque le gouvernement et le président veulent faire une loi, eh bien ils envoient leur projet de loi à l'Assemblée ou au Sénat, qui le discute et peut le modifier un peu, puis le voter ou pas, puis l'envoie à l'autre Assemblée, qui le discute, peut le modifier un peu et le voter ou pas. Là, si les deux assemblées sont d'accord, on dit « voter en première lecture ». Sinon, c'est renvoyé à l'autre assemblée qui peut soit le rediscuter, le remodifier un peu, puis le revoter ou pas, ainsi de suite. Après, il y a des commissions, tout ça. Tout ça prend du temps, et lorsque le gouvernement veut changer une loi rapidement et sans s'embarrasser de toutes les petites modifications des parlementaires et des discussions avec les partenaires sociaux, sans laisser le temps non plus aux possibles mouvements sociaux de se mettre en place, bref, lorsqu'il ne veut pas ouvrir le débat, eh bien, il peut demander au Parlement de voter une loi d'habilitation pour pouvoir gouverner par ordonnance. Par cette loi d'habilitation, les deux assemblées du Parlement autorisent le gouvernement à prendre lui-même et dans un délai limité des mesures qui relèvent du domaine de la loi. Alors, dans la hiérarchie des règles, la Constitution est en haut. En dessous, on a les lois qui ne peuvent pas aller contre la Constitution. Ensuite, on a les décrets qui doivent correspondre aux lois. Et enfin, les arrêtés. C'est comme un jeu de poupées russes. On est donc là au niveau de la loi. Dans le cadre de l'ordonnance, le gouvernement ne peut rien proposer qui toucherait aux lois organiques, celles qui règlent le fonctionnement des institutions, aux lois de finances, celles qui définissent la répartition des sous entre les institutions, le budget quoi, ni enfin à la sécurité sociale. Une fois que ça c'est dit, il reste comme un paquet de trucs sur lesquels le gouvernement peut intervenir. Dans le délai que la loi d'habilitation autorise, le gouvernement va donc devoir faire son projet de loi. Et l'ordonnance va être prise en Conseil des ministres, puis signée par le président de la République et entrée directement en vigueur. On dit qu'elle est promulguée. Après ça, et seulement après, le gouvernement demande au Parlement de ratifier le projet de loi. C'est-à-dire que là, les deux assemblées peuvent dire si elles sont d'accord ou pas. Rien dans le contenu de la loi n'est discutée. Si le Parlement est d'accord et que ça rentre dans la Constitution, alors l'ordonnance devient la loi. Sinon, l'ordonnance devient seulement un décret, ce qui signifie que tout ce qui est dans le texte et qui va à l'encontre de la loi déjà existante ne peut pas entrer en vigueur. Concrètement, ça annule le projet de loi. Pour rappel du calendrier, le gouvernement d'Édouard Philippe va donc demander au Parlement, après les législatives de juin, de voter une loi d'habilitation pour pouvoir gouverner par ordonnance. C'est la fin de notre petit point technique législatif et je vous en souhaite une bonne digestion.
La revanche des hérissons.
Gros dossier.
Alors pour ce gros dossier, on a été interviewer deux personnes qui ne sont pas salariées pour parler avec elles de c'est quoi le travail et qu'est-ce qu'elles en pensent et surtout comment elles vivent le fait de ne pas travailler. Du coup, on va écouter une petite musique de Sexy Sushi qui s'appelle « Je refuse de travailler » et après on écoutera les deux interviews. Voilà.
Est-ce que tu es salarié ou pas ?
Non.
Est-ce que c'est un choix ou est-ce que plutôt c'est une chose que... un fait ou quelque chose que tu subis carrément ou...
Je dirais plutôt qu'à l'heure actuelle, c'est un fait. À un moment donné, j'ai pris la décision de... que dans la vie, j'avais pas envie d'être salarié. Mais tu vois, c'était il y a très longtemps, j'étais jeune, quoi, j'étais au collège. Mais voilà, actuellement, si je voulais travailler de façon salariée, ça serait très compliqué de toute façon. Après 10 ans d'inactivité avec aucun diplôme.
Oui, moi je dirais que c'est un choix. Avant, en fait, quand je travaillais, enfin, je crois que ça fait à peu près 3 ans que je ne travaille plus, justement, j'avais pas de choix. En fait, je travaillais pour gagner ma vie, payer mon loyer, tout ça. Et j'avais vraiment l'impression que ça allait être quelque chose qui allait se répéter comme ça toute ma vie et qui allait jamais me donner l'opportunité de faire un truc qui me plairait.
Comment tu occupes ton temps qui est libéré par le fait de ne pas travailler ?
Alors, eh ben déjà, j'habite dans un lieu collectif. Du coup, il y a pas mal de... Enfin, on essaye de s'autogérer, donc il y a pas mal de tâches du quotidien qui peuvent m'accaparer. Et puis... quand j'ai décidé d'arrêter de travailler aussi, ça s'est couplé au fait de plus vivre en ville. J'ai eu vraiment une période, la première année où j'ai arrêté de travailler, où j'étais dans une sorte de reconnexion totale avec la nature, où j'ai fait beaucoup de jardins, de potagers, de trucs comme ça. Et puis, je me suis intéressée à l'apiculture, que j'ai pu mettre un pied là-dedans petit à petit, vraiment à mon rythme et pas... en fait, avec des contraintes économiques ou d'une formation ou quelque chose comme ça. Et après, je suis engagée dans d'autres choses, plutôt des groupes militants ou, je sais pas, j'essaye différentes choses que je sais pas encore vraiment tout ce que j'ai envie de faire, mais j'ai vraiment pas l'impression que j'ai tant de temps libre que ça depuis que je travaille pas.
Et tu faisais quoi à l'époque ?
Eh ben, j'ai fait une école d'art et du coup, quand je suis sortie de là, c'était avant mes 25 ans, donc j'avais justement pas droit aux aides sociales. Et j'ai fait beaucoup de ménage, de services dans des restos, des cafétérias, de la plonge. Enfin, c'était surtout des jobs alimentaires, toujours en contrat à durée déterminée. J'ai fait pas mal de saisons aussi pendant quelques années, donc pas trop déclaré, des petits boulots à droite à gauche. Et le seul job que j'ai eu un peu sur une durée, ça a duré un an et ça me plaisait parce que c'était en lien avec mes études. Je faisais de la régie pour une galerie d'art contemporain. Mais du coup, en fait, c'est la seule fois où j'ai fait un truc qui m'a intéressée, mais j'étais presque pas payée, j'étais pas déclarée. Enfin, c'était un peu je sais pas comment dire, fallait être content de pouvoir faire ce truc-là qui t'intéresse, mais fallait pas avoir faim et fallait pas avoir besoin d'avoir un appart et une voiture et...
Est-ce que toi, tu avais l'impression que ça pourrait exister un travail qui te plaît ?
Je ne voyais pas vraiment de travail qui me plairait. J'ai vu une forme de travail, un milieu dans lequel ça me semblait plus me laisser des possibilités, qui était le milieu du spectacle. Du coup, j'ai voulu aller faire une formation après mon bac là-dedans. Puis, je n'ai pas été au bout parce que je me suis rendu compte qu'en fait, en vrai, si tu veux, en tout cas en vivre, il faut travailler quoi. C'est-à-dire c'est un truc où tu te retrouves dans des situations dures de boulot pour que dalle et que le milieu il était pas si beau que je ne pensais.
Qu'est-ce que tu penses d'être son propre patron par exemple ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui fuient le salariat dans la création d'entreprise. Pour toi, ça pourrait être une alternative au salariat ou pas ?
Ben moi, je comprends bien tout ce que ça peut squeezer qui est hyper désagréable dans le salariat, enfin, d'être son propre patron. Mais moi, j'ai l'impression que ça... En fait, la question que ça me pose, c'est plutôt c'est quoi mon rapport à l'argent, en fait ? Qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir et comment ? Et c'est sûrement une idée que j'ai pas encore fini de creuser et de définir, en fait, quel est mon point de vue. Mais moi, j'ai l'a priori que si je mets une contrainte de subvenir à mes besoins, en fait, avec les activités que j'essaye de mener dans un cadre qui n'est pas du tout économique, j'ai l'impression que je risque de les abîmer, enfin, de les pervertir ou de moins aimer ce que je vais faire.
Et tout à l'heure, tu parlais que y avait le travail salarié, mais que c'est pas parce qu'on n'est pas salarié qu'on travaille pas. Qu'est-ce que tu peux dire du travail qui n'est pas salarié ?
Eh ben, que c'est aussi un travail. J'ai l'impression que le travail salarié, c'est ce que tu vends ta force de travail pour avoir de l'argent. Et que tout le reste, c'est tu utilises ta force de travail pour, je sais pas moi, pour avoir chaud, pour avoir plus avoir faim, pour avoir de l'argent, mais pas de façon déclarée. C'est toute une économie, en fait.
Et pour toi, du coup, c'est quoi le travail ?
Ben oui, c'est sûr, il faut voir ce qu'on met dans le travail. Moi, j'ai l'impression que... Enfin, ouais, moi, c'est vraiment un parti pris que j'ai eu dès le début, de me dire que j'allais pas être inactive. Parmi les gens que je connais qui ont pu avoir des périodes de chômage ou quoi, en fait, les gens, dans une grande majorité des cas, je les trouvais mal, en fait, de pas avoir d'activité. Et c'est pas... Moi, j'ai pas l'impression que... Où ça peut, c'est vrai qu'on peut être dans des périodes d'apathie, de dépression, de trucs où en fait on n'arrive pas à faire des choses. Mais j'ai vraiment l'impression que les gens, en règle générale, ont besoin d'avoir une activité.
Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une pression sociale pour travailler, ou est-ce que plutôt c'est un truc que tu vis même pas dans ton existence ?
Bah, objectivement, oui, je dirais qu'il y a une pression sociale à travailler. Après, dans les faits, moi, j'ai vraiment pas l'impression de la ressentir. Bah, assez facilement, je dis ce truc de « bah, je prends ma retraite maintenant parce que je suis pas sûr de l'avoir à la fin ». Et je pense que c'est un truc qui est partagé par pas mal de monde, en fait, même qui bossent, qui sont très intégrés à cette société-là, de bien se rendre compte que c'est pas dit qu'un jour j'aurai ma retraite de toute façon et que, bah, en vrai, bah, peut-être il vaut mieux que je la prenne maintenant. Et après, c'est sûr, hein, quand je fais la manche, et c'est très régulier qu'il y a des gens qui crachent dessus en disant « va travailler ». Et ça, c'est une forme de pression sociale, mais ils sont tellement... Enfin, ces gens-là, ils font partie d'un autre monde que le mien, quoi. Du coup, bah, ils me font le même effet qu'un flic ou qu'un juge ou qu'un contrôleur de la CAF, quoi. Ils font pas partie de mon monde et du coup, bah, je fais pas partie du leur.
Et est-ce que t'as l'impression d'être inutile à la société ?
Ça dépend à quelle société. Je sais pas, j'espère bien que pour la société, tu vois, de mes potes, c'est utile ce que je fais. Pour la société en général, moi, j'en sais rien. Je pense bah ça arrange par des bouts, ça fait chier par d'autres.
Et est-ce que toi, tu trouves que le travail salarié est utile à la société ?
Est-ce que je pense qu'il y a des travaux salariés qui sont d'aucune utilité ?
Ouais.
Ah ouais, grave.
Tu penses à quoi ?
Genre, ouais, tous les trucs de notaire, de... Enfin, tout un tas de gens là qui, juste par leur existence même, ils sont juste là pour toucher du fric sur la route et travailler à des trucs comme ça. Ensuite, il y a bah, tout ce qui est les traders, des trucs comme ça, et ceux qui sont employés par... Ensuite, il y a tous ceux qui sont flics, il y a tous ceux qui bossent dans les hautes administrations. Enfin, ouais, je pense qu'il y en a pas mal qui ne servent pas à grand-chose.
Est-ce qu'il y a d'autres choses que je n'ai pas abordées qui te donnent envie de...
Je ne sais pas trop bien comment dire ça, mais que quelque part, sur des conditions sociales un peu similaires, eh ben, le choix, il n'est pas réel. Entre travailler ou pas travailler. J'ai l'impression que le choix, il s'effectue plus en fonction des conditions de vie que t'es prête à avoir ou pas. Certaines conditions de vie induisent un travail salarial pour être sûr de les atteindre. D'autres conditions de vie sont induites par le fait de pas avoir de travail salarial fixe. Mais qu'en vrai, la question de choix, elle se pose pas, que dans les deux cas, t'es perdant en fait dans ce monde. De toute façon, t'es en bas de l'échelle et du coup, bah, tu travailles juste à ta survie et le fait que tu remues dans ce petit monde, bah, ça engraisse des gens, quoi. Dans tous les cas, quoi.
Donc voilà, on a écouté ces deux petites interviews. Maintenant, on va s'écouter une chanson de Starmania, La serveuse automate, avant de passer à la rubrique coup de cœur.
J'ai pas demandé à venir au monde. Je voudrais seulement qu'on me fiche la paix. J'ai pas envie de faire comme tout le monde, mais faut bien que je paye mon loyer. Je travaille à l'underground café. Je suis rien qu'une serveuse automate. Ça me laisse tout mon temps pour rêver. même quand je tiens plus debout sur mes pattes, je suis toujours prête à m'envoler. Je travaille à l'underground café.
La revanche des hérissons.
Coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur.
Ça se règle, ce tient-gorge. L'agrafage aussi, pourquoi ils en mettent trois? Il y a une raison. Les portes, on appelle ça une porte. Ça, c'est un crochet. S'il y en a trois, c'est parce qu'on peut faire trois réglages. Et il y en a beaucoup. Moi, j'ai vu, les seins, ils passent en dessous. Bah, ça commence déjà par là.
C'était ça qui était intéressant quand on faisait les essais, parce qu'il nous expliquait tout.
C'était très important d'avoir cette petite basque-là, bien à plat, entre les deux seins. Bien mettre le sein, on nous avait appris à mettre le sein dans le soutien-gorge. Parce que quand on allait imaginer qu'il faisait un peu froid, alors on enlevait notre soutien-gorge. Après, le soutien-gorge qu'on essayait, il était plus ou moins froid aussi. Il n'était pas à la température du corps, donc il fallait laisser le temps que le sein se place bien dans le soutien-gorge. Et une fois qu'il était bien placé, tout allait bien.
L'essai pouvait commencer.
L'essai commençait. Ça va bien, il est bien mis, on sent. Bon, alors ça va bien. Là, ça baille, c'est pas terrible. Là non plus, là, il y a des...
Là, ça remonte trop haut, c'est pas bien serré.
Mais oui, c'est un métier, ça aussi. C'est comme tout le reste, tout s'apprend.
C'est comme tout le reste, tout s'apprend. Ce que vous venez d'entendre est un extrait du web documentaire « Les dessous de la fabrique ». Et les femmes que vous avez entendues discuter de l'essayage de soutien-gorge ne sont pas mannequins, mais les filles de Chantel, ancienne ouvrière de l'usine du même nom, qui produisait à Saint-Herblain, puis à Couëron, des sous-vêtements féminins. C'est ce média inhabituel qu'est le web documentaire, et surtout ce qu'il raconte, que nous avons choisi de vous présenter aujourd'hui pour notre rubrique Coup de cœur. Je vous invite donc chaudement à aller consulter sur le site lesdessousdelafabrique.fr le travail réalisé par Aurélie Marchand et Anne-Laure Lejaune, où les anciennes de chez Chantel, comme elles disent maintenant, nous racontent leur histoire ouvrière et militante qui court de 1966 à 2005, date de la fermeture de l'usine pour cause de délocalisation. Tout d'abord, un petit point sur le concept du web documentaire. Il s'agit d'un média en l'occurrence d'un site internet, ma foi fort joli, où 7 thèmes différents, matérialisés par des onglets, vous proposent de naviguer entre vidéos et témoignages sonores, collectifs ou individuels, des anciennes et anciens acteurs de cette histoire. Au fil des 7 rubriques en question, les filles de Chantel vous racontent successivement leur jeunesse d'ouvrière et leur activité de militante jusqu'à leur vie après l'usine. Mais je ne vous en dis pas plus, car il faut savoir garder le suspense. On trouve, outre les témoignages et vidéos pour chaque thème, des archives écrites telles que les échanges de lettres entre les ouvrières et la direction, ou les paroles du chiffon rouge, chansons, semble-t-il, maintes fois chantées sous les banderoles des manifestations. Les auteurs de ce documentaire ont travaillé à partir des témoignages de 11 Chantel, anciennes ouvrières, déléguées syndicales ou pas, mais également mécaniciens et directeurs de l'usine. Entrées souvent jeunes à l'usine après un CAP couture ou parfois formées par l'entreprise, le site comptait un centre de formation, leur travail est découpé en différents postes, de la coupe en passant par les mécaniciennes, non données aux couturières, jusqu'aux bordeuses qui cousaient les dentelles. Chacune a sa tâche, en équipe souvent, elles grandissent dans ce qu'elles appellent parfois leur deuxième famille, grande famille qui a quand même compté dans les années 70 jusqu'à 500 ouvrières. Chiffre qui décline ensuite au fil des plans sociaux successifs. Confronté à une politique d'entreprise très autoritaire, le dialogue avec la hiérarchie s'instaure rapidement dans le rapport de force permanent. Ouvrière et militante en lutte continuelle, ce qu'elle raconte ici est une histoire de femmes mais d'abord de travailleuses. Je vous propose, dans ce qui suit, de les écouter parler de leurs conditions de travail. Rappelons-le, elles travaillaient au rendement.
Souvent, on dit le travail à la chaîne, c'est très dur. Et le travail au rendement, c'est moins dur que le travail à la chaîne. Parce que le travail au rendement, chacune pouvait faire à la vitesse c'était qu'elle voulait. Tandis que moi, où je travaillais avant, c'était à la chaîne.
T'es obligée de suivre celle qui est devant,
oui. Il n'y a rien. Ah, c'est affreux. Puis s'il y en a une salope dans l'équipe, moi, je l'ai eu ça parce que bah, j'allais faire les remplacements. Et bien, bah, celle de derrière, et bah, pendant tout un moment, elle ne bossait pas. Et puis après, comme ça, j'en avais plein mon bac. Et puis après, il fallait tout récupérer. C'est très dur à la chaîne. Très, très dur à la chaîne. C'est plus dur à la chaîne qu'au rendement.
Et l'ambiance, c'est meilleur quand c'est au rendement qu'à la chaîne.
Parce qu'à la chaîne, c'est infernal. Hein. Entre filles. Ouais.
Parce que si tu voulais aller aux toilettes, tu pouvais quitter ton
ta place. On a connu la période qu'il fallait pointer. Bon, ça n'a pas duré longtemps. Hein, ouais, parce que ça fait un foin. Hein. Fallait pointer pour aller aux toilettes.
Connues pour leur combativité et figure de proue locale de la lutte syndicale féminine, les Chantel à Saint-Herblain, l'entreprise possédait d'autres usines en France, ont connu leur première grève en 1968 dans le mouvement social généralisé de cette année-là. La première section syndicale, la CFDT, est alors créée, suivie en 1972 par la section de la CGT. Les années 70 sont émaillées de conflits avec la direction pour les conditions de travail et le salaire principalement. L'hiver 80-82 représente un point d'orgue dans le tableau, alors que les ouvrières débrayent plusieurs fois, puis finissent par se mettre en grève, et même séquestrer leur patron pendant une journée. Durant 2 mois, elles occupent leur usine, se relaient pour y dormir, sont soutenues par les travailleurs de la zone industrielle voisine, ceux de Frigé-Crème notamment, et même par la mairie de Saint-Herblain. Elles organisent des portes ouvertes, manifestent en ville, font tourner bourrique les forces de l'ordre et finissent par obtenir des négociations avec le siège social de Paris, sous la médiation de l'inspection du travail. La décennie qui suit continue dans la même lancée, mais le groupe Chantel ouvre des usines dans des pays où les travailleuses coûtent moins cher. En 1993, la fermeture de l'usine de Saint-Herblain est annoncée. Une année de conflit s'ensuit, les Chantel manifestent, font grève, organisent même une opération péage gratuit pour payer le trajet à Paris, le siège social. Le plan social est négocié, mais l'usine ferme ses portes à Saint-Herblain, ne gardant qu'une petite unité de production à Couëron. 10 ans plus tard, en 2005, Chantel à Nantes, ce ne sont plus que 27 employés qui se battent contre la perte de leur emploi. Certaines travaillent depuis 40 ans. Une nouvelle année de conflit pour obtenir un plan social pas trop pourri. Leur histoire peut sembler triste comme ça, mais c'est surtout une histoire de force et de lutte collective. Pour terminer de cette présentation des dessous de la fabrique, qui j'espère aura piqué votre curiosité, je vous laisse avec Annie Guillaumard, déléguée syndicale de 1967 à 2005 chez Chantel, suivie par les peines sardines de Claude Michel.
Le militantisme, ça te change quand même, ça te mûrit, ça te forge, ça t'endurcit, je trouve. Tu es un peu moins douce qu'avant. Puis ça ne porte pas vraiment ses fruits, hein, financièrement, hein, quand on est militant. Hein. Parce que dans les boîtes, on est marqué à l'encre rouge, les augmentations de salaire, je les avais pas toujours. Hein. Mais bon. Voilà. C'est moi qui avais le plus petit salaire chez Chantelle.
Camarades, scandale. Aucun mot ne peut mieux qualifier la décision prise par la société Chantelle. Ce 22 novembre 1993, elle a dépassé les bornes en annonçant.
C'est pas évident hein, de parler devant
de
tout le monde.
Supprimer nos 200 emplois.
J'ai mal au ventre à chaque fois, moi. Impressionnant. Hein. Mais bon, après, quand il faut, il faut. On était écoutés, on était soutenus, on était. Oui. Oui, c'est sûr qu'on était bien perçus. Parce que c'était des luttes justes. L'emploi des femmes, c'est important de les conserver. Hein. C'était une boîte qui faisait des bénéfices, donc il n'y avait pas lieu de délocaliser, pas lieu de fermer. C'est surtout ça. Je pense que je leur en veux toujours un peu à Chantelle de nous avoir viré comme ça. Tout le monde, enfin pas tout le monde, mais je pense que tous les gens qui ont été licenciés comme nous, on a pu l'être, on se retrouve chez soi entre quatre murs le lendemain matin et tu te dis qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Parce qu'on est quand même un peu formaté par rapport au travail. Bon, je pense qu'on est un peu désociabilisé quand on travaille plus, c'est mon avis. Hein. Donc on n'a plus de repères, on n'a plus rien. Je me disais, si je me boostais pas, je restais toute la journée en chemise, enfin robe de chambre. Quoi, hein. Et ce qui m'a fait réagir, c'est surtout que quand on négociait le dit plan social, forcément on a contesté les montants et tout, mais bon, on a quand même eu un plan social de bonne qualité, il ne faut pas non plus exagérer, mais c'est pas ce qu'on voulait, on voulait le maintien des emplois. Et je disais, c'est pas assez ce que vous nous donnez, vous voulez qu'on reste en pantoufles, en charentaise, et qu'on se parfume plus, qu'on se coiffe plus, enfin. Hein. Et je me revois dire ça à la direction générale, et quand je me revois dans la salle d'eau, et je me disais, c'est ce que tu disais, hein, tu vas pas tomber dans le panneau quand même, tu vas rester en chemise de nuit toute la journée. Certes, j'ai rentré que tard le soir. Mais je me suis vraiment emmerdée au départ. Hein. Ça a été très dur pendant un an, hein. J'ai eu beaucoup de mal, beaucoup de rancœur, beaucoup de colère, beaucoup de... Et comment évacuer cette colère, je sais pas, je savais pas comment l'évacuer. Et je pense que c'est parti un peu, mais je pense qu'il reste encore.
Il fait encore nuit, elles sortent et frissonnent. Le bruit de leurs pas dans la rue résonne.
Il fait encore nuit, elles sortent et frissonnent. Le bruit de leurs pas dans la rue résonne.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
À 10 ou 12 ans sont encore gamines, mais déjà pourtant elles entrent à l'usine.
À 10 ou 12 ans sont encore gamines, mais déjà pourtant elles entrent à l'usine.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Du matin au soir, nettoie les sardines, et puis les font frire dans de grandes bassines.
Du matin au soir, nettoie les sardines, et puis les font frire dans de grandes bassines.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Tant qu'il y a du poisson, il faut bien s'y faire. Il faut travailler, il n'y a pas d'horaire.
Tant qu'il y a du poisson, il faut bien s'y faire. Il faut travailler, il n'y a pas d'horaire.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
À bout de fatigue, fatigue, faut pas s'endormir. Elles chantent en chœur, il faut bien tenir.
À bout de fatigue, il faut pas dormir. Elles chantent en chœur, il faut bien tenir.
Écoutez, elles brûlent leurs sabots. Voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, elles brûlent leurs sabots. Voilà qu'arrivent les peines sardines.
Écoutez, elles brûlent leurs sabots. Voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, elles brûlent leurs sabots. Voilà qu'arrivent les peines sardines.
Malgré leur travail, n'ont guère de salaire. Et bien trop souvent, vivent dans la misère.
Malgré leur travail, n'ont guère de salaire. Et bien trop souvent, vivent dans la misère.
Écoutez, elles brûlent leurs sabots. Voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, elles brûlent leurs sabots. Voilà qu'arrivent les peines sardines.
Écoutez, elles brûlent leurs sabots. Voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, elles brûlent leurs sabots. Voilà qu'arrivent les peines sardines.
Un jour tout ensemble ces femmes se lèvent, à plusieurs milliers se mettent en grève.
Un jour tout ensemble ces femmes se lèvent, à plusieurs milliers se mettent en grève.
Écoutez, elles brûlent leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez, elles brûlent leurs sabots, c'est la grève des sardinières.
Écoutez, elles brûlent leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez, elles brûlent leurs sabots, c'est la grève des sardinières.
Dans la ville rouge on est solidaire, et de leur victoire les femmes sont fières.
Dans la ville rouge on est solidaire, et de leur victoire les femmes sont fières.
Écoutez, elles brûlent leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez, elles brûlent leurs sabots, c'est la grève des sardinières.
Écoutez, elles brûlent leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez, elles brûlent leurs sabots, c'est la grève des sardinières.
À Douarnenez et depuis ce temps, rien ne sera plus jamais comme avant.
À Douarnenez et depuis ce temps, rien ne sera plus jamais comme avant.
Écoutez, elles brûlent leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez, elles brûlent leurs sabots, c'est la victoire des sardinières.
Écoutez, elles brûlent leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez, elles brûlent leurs sabots.
La revanche des hérissons, agenda.
Agenda.
Alors, vous êtes toujours sur Sun 93 FM à Nantes. Et ce mois-ci, il y a plein d'événements, plein de choses chouettes à faire. Du coup, pour commencer, il y a un festival de soutien à Ciné-Tapage ce week-end. Donc, Ciné-Tapage, c'est un festival de films autour des identités et des luttes intersexes, trans, bi, PD et Gwyn, qui aura lieu à l'automne à Rennes. Donc, si vous avez envie d'aller au week-end de soutien, ça se passe à Rennes jusqu'à dimanche, avec des projections, des concerts, des cantines collectives, des infos kiosques et plein d'autres trucs chouettes. Et c'est à prix libre, c'est accessible aux personnes sourdes. Et les soirées de samedi et dimanche se passeront dans un lieu accessible aux personnes qui se déplacent en fauteuil roulant. Et dimanche soir, toujours le 4 juin, aux ateliers de Beach à Nantes, il y a une soirée de soutien aux UEH. Les UEH, c'est des rencontres féministes et autogérées qui ont lieu chaque été et qui sont organisées pour et par des personnes intersexes, bisexuelles, lesbiennes, gays, trans, asexuelles et queer. Du coup, dimanche soir à Beach, concert de soutien avec Grâce et Volupté Van Van, Viscéralement Déviant et Tetra. C'est plutôt style rap, hip-hop, TPG et électro-queer expérimental. Et l'entrée et le bar sont à prix libre, c'est à partir de 20h dimanche. Lundi 5 juin à 19h, il y a une émission TPG sur Radio Cayenne. Donc vous pouvez l'écouter en ligne sur internet sur mixlr.com, du coup mixlr.com/radio-cayenne. Cayenne, c'est C-A-Y-E-2-N-E. Voilà, donc n'hésitez pas à écouter cette émission, ça va être chouette. Jeudi 8 juin à 18h à la MOB à Nantes, il y a notre soirée de soutien de la revanche des hérissons. C'est l'événement à ne pas manquer. Il y aura du coup une écoute collective de l'émission, une bouffe collective, des boissons à prix libre et un spectacle de magie par les tourloupes et une boum et peut-être encore d'autres surprises bonus super géniales. Du coup, la soirée, elle est ouverte à toutes et tous et on espère bien vous y croiser. Ça se passe le 8 juin à partir de 18h et c'est à la MOB. Du coup, ça se situe au 17 bis, rue du Général Buat, pas très loin du rond-point de Paris, à Nantes. Voilà. Le samedi 10 juin, bon, bah, ça vous le savez sûrement déjà, c'est la Pride. Donc rendez-vous Place Bretagne vers 14h. Et du 9 au 11 juin, il y a la Mouchi Mouchi au Solilab. Du coup, c'est organisé par le collectif Divergent. Et du coup, on a rencontré des membres de ce collectif qui vont nous raconter un peu plus ce qu'elles font. Bonjour Alice et Julie. Du coup, vous faites partie du collectif Divergent. Vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi ce collectif ?
Bonjour. Le collectif Divergent, en fait, c'est un collectif qui s'est monté en 2010. C'est principalement une bande de potes Gwyn de Nantes. On s'est monté parce qu'on en avait un peu marre des marches des fiertés qui avaient lieu à Nantes. On ne s'y retrouvait pas trop dans les messages politiques, si messages politiques il y avait. Et du coup, on s'est dit, plutôt que de critiquer, bah, on va proposer quelque chose. Donc du coup, à la marche des fiertés de 2011, on a fait notre propre char qu'on tirait à la main. Et puis, on a fait des actions genre dying.
Et du coup, suite à cette marche, on voulait proposer une soirée parce qu'à ce moment-là, à Nantes, la soirée officielle de la Gay Pride, la Marche des Fiertés, avait lieu au LC Club, un club hétéro, plutôt homophobe tout le reste de l'année, et là, qui ramassait toute la caillasse de nous, en fait. Enfin, bon, moi, j'y allais déjà pas. Mais bon, de certaines d'entre nous, en tout cas, on trouvait ça un peu abusé, en fait, de faire une fête dans un lieu qui est pas du tout gay tout au long de l'année, et puis d'un coup, parce qu'il y a une manne financière, se met à faire une soirée dans l'année.
Et c'était aussi une soirée payante, avec les tarifs boîte de nuit, enfin, à part peut-être pour l'entrée, mais en tout cas, les boissons, tarifs boîte
même
de
l'entrée,
nuit. Quoi.
Même l'entrée, c'était du 15 balles, peut-être 10 balles en pré-vente.
Je connais pas les tarifs 15 balles, des boîtes de nuit.
Ah oui, moi non plus.
On suppose que c'est ça, mais... Et voilà, donc du coup, c'était aussi l'idée d'avoir un truc, de proposer une alternative aussi financière, enfin pas financière, mais plus accessible à toutes, quoi.
Ok, super. Et du coup, cette soirée, du coup, c'est la Mouchi Mouchi. Là, c'est la combienième édition de la Mouchi Mouchi cette année ?
Là, c'est la 7e édition.
Bon, y a un piège hein, quand même dans cette histoire de décompte, c'est qu'on a commencé en 2011 avec la Mouchi Mouchi 1. Enfin, à ce moment-là, on ne savait pas que c'était la 1. Mais du coup, l'année d'après, en 2012, on a fait la 2, puis la 3 en 2013, la 4.0 et la 4.1 en 2014. En 2015, on n'a rien foutu. En fait, non, on n'a pas trouvé de lieu. En 2016, on a galéré à trouver un lieu. Et c'était la 5. Et puis là, on a biaisé, on a dit que 6, bof,
on
c'était moche.
Trop.
Alors, on a mis 7. Parce que en vrai, il y a eu 7 éditions. Mais oui, 2 voilà. La même année et 0 une année. Voilà. Donc, 7e, bah, je sais pas, on peut parler de la Mouchi 7. Alors, ce sera les 9, 10 et 11 juin 2017. Donc là,
dans pas longtemps.
Dans pas longtemps. Et ce sera au Solilab, qui est un grand espace associatif qui est situé à côté du Floride pour les gens qui connaissent un peu Nantes et les boîtes de nuit pour le coup. Donc voilà, c'est un espace immense et du coup on le loue pour 3 jours. Donc là, c'est la première année où on loue un lieu en fait. Toutes les autres années, on a défrayé le lieu qui nous accueillait, mais au départ, c'était un hébergement à titre gratuit ou à prix libre, on va dire, ou à prix très réduit. Là, c'est une vraie loc. Voilà, c'est juste pour faire un petit message si jamais la ville de Nantes nous écoute et qu'il faudrait vraiment qu'ils nous ouvrent des lieux cool, pas chers, en centre-ville. Voilà.
Oui, sachant qu'on les a contactés quand même pour avoir une salle municipale et qu'on n'a jamais eu de réponse.
Pourtant, il y a un service de défense LGBT+, à la mairie, qu'on a contacté, mais... Non, même ce service-là, ils sont pas pro marche des fiertés et fête des fiertés.
Et donc pour en revenir à la Mouchi, donc c'est 3 jours, ça commence le vendredi à 15h, 16h,
16h
pour les ateliers. Donc il y a 2 ateliers organisés sur inscription qui sont un atelier drag queer animé par Victor, qui est quelqu'un d'assez connu dans le milieu du drag king principalement, et un atelier
Victor Lemort.
Sur, ah oui. Pardon. Et un atelier sur la marche des privilèges.
Qui s'appelle la marche, des privilèges.
Co-animé par Cédric et par Chloé de Transinteraction.
Du coup, il y a des ateliers là, à partir de 16h, 17h, là, il y a des ateliers donc, sur inscription pour lesquels on peut contacter le collectif Divergent avec un S à diverse, tout attaché, @gmail.com. Donc voilà, même ceux qui n'ont pas Facebook peuvent savoir qu'il y a cet atelier si vous écoutez la radio. Et après ces ateliers, il y a deux expositions qui vont rester là pendant le week-end entier. Donc c'est Marine Fiquet et Laura Botero qui sont deux artistes sérigraphes, graphistes, installatrices aussi. Et là, elles présentent une série magnifique. Et Lily Hook qui, elle, est photographe et qui présente aussi son travail. Suite à donc, ses expos, ses ateliers.
Là, les ateliers, c'est sur inscription et l'ouverture au public, c'est à partir de 18h. Sur le lieu, il y aura deux expos, trois artistes nantaises, une expo photo et une installation. Ensuite, il y aura un bal folk dégenré, ça c'est à partir de 20h. Et puis ensuite, c'est la boum. Donc bah, sur place, il y aura comme à peu près à toutes les mouchis, une fanzino, là il y aura une friperie, il y aura aussi un espace un peu détente avec genre table de ping-pong, baby-foot, méga drive, voilà. Ensuite, le samedi, ça commence également à 18h, juste après la marche, quoi, en gros. Et puis là, il y aura une performance Drag Queen de Pearl Boopcock. Il y a aussi Eds qui sera présent sur cette soirée-là pour des stands de dépistage du VIH et des stands de PrEV aussi par rapport à l'usage de drogue. Ensuite, il y a des DJ, il y a une rappeuse et puis voilà, donc c'est la boom, quoi. Et le dimanche, c'est à partir de 14h, donc il y a une projection en début d'après-midi avec une discussion. Puis après, à côté de ça, il y aura une piñata, il y a une tombola, il y a un tournoi de badminton. Et puis il y a des concerts, il y a deux concerts et ça finit à 20h là, le dimanche. Donc c'est retour au calme, tranquille, mais on veut pas se quitter tout de suite non plus, quoi. Donc on reste encore un petit peu. Et puis bah, sur le lieu, il y aura aussi le samedi, que j'ai oublié de dire, qu'il y aura des cantines. Il y a une cantine végane et une cantine mexicaine. Donc il y a de quoi manger.
Qui est végétarienne mais pas végane du coup.
Il y aura de quoi manger, quoi. Et boire, évidemment. Ah si, un truc important, c'est que tout sera à prix libre. L'entrée est à prix libre, le bar sera à prix libre, les cantines seront à prix libre. L'expo, il y a des œuvres exposées qui seront en vente à prix libre aussi.
Voilà, donc on vous rappelle, la Mouchi Mouchi, c'est du 9 au 11 juin, ça se passe au Solilab, 8 rue Saint-Domingue à Nantes. Le même week-end, le 10 et 11 juin, il y a le championnat de France de roller derby féminin, ça se passe au Palais des Sports à Beaulieu. Voilà, voilà, du coup ça fait plein de choses à faire, à aller voir, tout ça. Au mois de juin, on espère que vous avez passé une bonne émission. Et on vous retrouve dans un mois pour une émission de vacances. À bientôt.